talmudique. L'art de mentir résume une grande part ce que fut la culture nazie, comme le dit Johann Chapoutot, un univers où tout était mensonge. Et sans aucun doute que le camp de Theresienstadt, Thérésine en tchèque, atteignit le summum de ce que Martin Buber qualifiait du mal le plus profond, à savoir le mensonge. En effet, ce camp ghetto situé à 70 km de Prague fut utilisé comme vitrine pour camoufler la nature des déportations et offrir aux yeux du monde une image de ghetto modèle et de ghetto confortable où il faisait bon vivre. Des films de propagande se chargèrent de le faire savoir à travers le monde. Quelques 140 000 juifs de Prague, de Bohême-Moravie, d'Allemagne, de Hollande et du Danemark furent enfermés dans la forteresse de Thérésine. 90 000 furent déportés vers des camps d'extermination. Environ 33 000 moururent dans le ghetto même. À la libération, des milliers de dessins, des centaines de poèmes et des dizaines de journaux intimes de ses enfants furent découverts dans les casernes de la citadelle, ainsi que des partitions de musique et des œuvres d'art réalisées par des artistes internés, dont la plupart furent ensuite assassinés à Auschwitz et d'autres camps d'extermination. Et parmi toutes ces œuvres, il y en a une particulièrement singulière, un petit livre de croquis contenant 52 aquarelles qu'un père, Bedrich Frita, artiste de talent, réalisa pour son fils Tommy à l'occasion de son 3e anniversaire qui tombait le 22 janvier 1944. Grâce à la passion, l'énergie, le désir et la volonté de quelques personnes à travers le monde, ce livre vient de voir le jour en français. Pour Tommy, en est le titre, et quand un père dessinait pour son fils dans le camp de Thérésine, le sous-titre. Elios Azoulay, bonjour.
Bonjour, cher Marc-Alain Wacklin.
Elios Azoulay, vous êtes compositeur, clarinettiste, écrivain et poète. Question simple, nécessaire et importante, Elios Azoulay. Comment avez-vous découvert le livre de Tommy ?
Eh bien, comme vous le disiez, cher Marc-Alain, voilà maintenant plus de 10 ans que j'interprète les musiques composées dans les camps de concentration. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le camp de Thérésine, d'un point de vue de la création musicale, est une impensable manne, n'est-ce pas ? Des compositeurs de génie sublimes y ont été prisonniers, et là-bas ont réussi, malgré l'encerclement de la mort, de la terreur, enfin, ils ont eu la possibilité de déployer une œuvre musicale d'une très 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 grande valeur. Donc au milieu de mes recherches, je suis tombé sur des dessins, et notamment sur l'œuvre de Bedrich Frita, et au cœur de son œuvre, qui est une œuvre clandestine, qui nous vient de là-bas, où il dessinait avec vraiment quelque chose d'absolument dingue, une énergie féroce, la réalité du camp. Il y avait au milieu de tout ça des dessins, des petites aquarelles tendres, rondes, charmantes, rieuses. Et ben, c'était des dessins qu'il avait réalisés pour son fils, un petit album de 52 aquarelles. Et j'en ai découvert, une, deux, trois, comme ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce livre soit pas publié en France? Et j'ai proposé ça aux éditions du Rocher. Ils m'ont dit, mais bien sûr, absolument, il faut le faire. Et on l'a fait.
Et vous avez rencontré Tommy?
Alors malheureusement, Tommy est mort en 2015. Et je suis rentré en contact, en fait, avec le fils de Tommy, un des enfants de Tommy, David Haas, juste quelques mois après le décès de son père. Ce livre que nous avons, nous, en tout cas entre les mains, il s'agit de la première publication depuis la mort de Tommy. Puisque le petit enfant qui a 3 ans sur les images dessinées est mort en mars 2015. C'est un vieux monsieur en fauteuil roulant qui a toujours gardé une âme d'enfant, je ne peux pas le dire, mais quelque chose d'un enfant un petit peu croquevillé comme ça, quand on le voit sur les dernières images.
Son père, Bedrich Frita, l'auteur donc du livre de Tommy, qu'il a écrit pour son fils, était dessinateur, interné à Thérésine, avec d'autres dessinateurs. Qui était ce monsieur, Bedrich Frita? Et d'ailleurs, Bedrich Frita, c'est un nom d'artiste.
Oui, tout à fait, il s'appelait Fritz Tausig. Et Bedrich Frita, Fritz Tausig Frita, voilà, il a coupé le prénom et le nom en deux, et il s'est fait ce nom-là, Bedrich Frita. Et c'était un caricaturiste avant la guerre. Un trait sublime, aigu, intransigeant, et véritablement génial. Je pense que c'est un artiste de génie. très impliqué dans une revue à l'époque pragoise qui s'appelait Simplicus, qui était une revue d'avant-garde et puis alors furieusement, naturellement, antifasciste. Et puis, il a fait malheureusement, puisque juif, il a fait partie du premier convoi à être emmené à Térésine pour faire partie de ceux qui ont finalement monté, créé ce camp, ce décor et ce qu'il allait devenir.
Vous dites qu'il est arrivé très tôt pour construire le camp. Quels travaux, lui et ses collègues, réalisaient-ils dans le bureau des dessins du département technique où il avait été affecté? Et je crois même qu'il en était une sorte de chef de projet,
Elios Azoulay. Absolument, c'était lui le directeur de ce bureau de dessin technique. Et toute la journée, un petit groupe de peintres, ingénieurs, architectes produisait pour la commande en tour des plans, des croquis, des plans de canalisation parfois, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors aussi toute une œuvre de propagande, des petites aquarelles mignonnes ou qui étaient censées raconter comme il faisait bon vivre à Térésine. Ces gens-là, ces peintres-là, travaillaient toute la journée. Enfin, c'était hallucinant comme type de production. Mais le plus important, c'est que parallèlement à cette œuvre d'obligation, à cette œuvre à laquelle ils étaient condamnés, eh bien, ils œuvraient dans la clandestinité pour produire des dessins hurlants, gueulant, comme dirait Gary, gueulant la vérité. Et ce sont ces dessins-là, malheureusement, qui leur vaudra ensuite d'être pris, torturés.
La vérité du camp.
Bah oui, la vérité du camp, absolument. Mmh. La vérité du camp, la vérité de ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire qu'il y en avait deux qui montaient la garde, et puis vous aviez Bedrich Frita, pour parler de lui, puisque nous sommes là pour parler de lui aujourd'hui, eh bien, qui croquait tous ces vieux juifs qui étaient entassés dans une cave ou dans un commerce, ou ces gens qui mouraient à même le sol. Enfin, c'était la vérité, la pure vérité.
Il montrait l'envers du décor.
Absolument, il montrait l'envers du décor, et ce qui est étonnant quand on se plonge dans ses dessins. D'ailleurs, exactement comme quand on se plonge dans les grandes œuvres écrites là-bas par les grands musiciens d'avant-garde de Térésine, c'est comment se fait-il qu'ils aient pu travailler avec autant de détails? Comment est-ce qu'ils ont pu affoler leurs plumes, faire vibrer autant l'atmosphère? Comment autant de détails dans un temps si confisqué? Non mais ce sont de pur génie d'intensité et d'urgence.
Ce qu'il y a de très important par rapport à ce groupe dont on pourrait citer les noms, en dehors de Bedrich Frita, il y a Léo Haas, dont on parlera, qui est très important. Il y a un autre qui s'appelle Ungar. Et puisqu'ils travaillaient dans ce bureau technique, ils avaient des grandes feuilles.
Oui.
Et ce qui a permis de faire des grandes œuvres, contrairement à ce qu'on a pu retrouver dans d'autres camps, des petites aquarelles ou simplement des petits griffonnages sur des papiers assez minuscules. Là, on a des œuvres, je dirais, presque monumentales.
Vous avez tout à fait raison. Quand on a la chance de voir ces œuvres presque entre les mains gantées, entre les mains au musée juif de Berlin, ce sont de très, très grandes feuilles de dessin. Enfin, vous voyez les grands cartons à dessin que se trimballent les artistes dans les rues. Eh bien, voilà. Vous avez des feuilles de cette dimension-là, avec de l'encre de Chine, de l'aquarelle. Enfin, c'est évidemment par rapport au bout de papier qu'on était obligé d'arracher dans les autres camps. Enfin, là, ils avaient le luxe, pardonnez-moi ce terme-là, ou le privilège, pardonnez-moi ce terme-là. Ils avaient la possibilité de déployer vraiment des dessins et justement, encore une fois, de s'affoler dans chaque détail et d'affoler chaque détail.
Le musée de Berlin en a fait une exposition il y a quelques années.
Oui, il y a, je crois que c'était en 2013, il me semble. Non, peut-être non, 2007, finalement trop longtemps. Et croyez bien que je serais heureux. Et la mémoire de ces peintres comblés, et de leurs enfants, et celle de Bedrich Frita notamment, comblés que Paris leur offre une rétrospective de cette œuvre qui est inimaginable et profondément bouleversante.
Je suis sûr que vous allez être entendu. Pour comprendre l'histoire dont nous parlons, il est important de parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire des peintres qui détermina la vie et la mort de Bedrich Frita, dont on vient de parler, et de certains de ses collègues, Elios Azoulay.
Oui, ils se sont fait prendre, ils se sont fait avoir. Il y a quelques dessins qui sont tombés entre les mains des nazis. Des dessins que les juifs espéraient faire sortir du camp. C'est tellement bouleversant d'ailleurs d'imaginer, tellement pathétique qu'ils puissent penser qu'en faisant sortir quelques dessins, ils allaient réveiller le monde. Et ils se sont fait effectivement avoir, et la veille de cette arrestation, les peintres, dont Bedrich Frita, ont appris que des dessins avaient été trouvés. Et donc, dans ces dernières minutes, dans cette dernière soirée, dans cette dernière nuit, Bedřich Fryta a mis tous ses dessins dans un coffre. Et ce coffre a été enterré à l'intérieur du camp, dans la cour d'une ferme. Le lendemain, ils sont interrogés, une enquête est menée, et les enquêtes se mènent à coups de poing, se mènent par la torture. Aucun des peintres n'avoue, rien n'est avoué. C'est ça qui est extraordinaire, ce sont des héros, ces gens-là sont des résistants purs, ils n'avouent rien. Certains sont tués, à Térézine même, et Bedřich Fryta est envoyé à Auschwitz, avec un ami à lui. Aussi un autre peintre de génie, Léo Haas. Et là, on peut imaginer que peut-être dans le wagon, enfin, ils s'avouent l'un à l'autre où les dessins ont été planqués. Arrivé dans le camp d'Auschwitz, Bedřich Fryta meurt. Enfin, il meurt de tout ce qui arrive avant, de tout ce qui arrive après. Et puis, il a été séparé justement de sa femme et de son fils Tommy. Et Léo Haas, son ami, lui aussi à Auschwitz, lui fait une promesse de mensch, d'homme. Il lui dit, écoute, si je devais moi m'en sortir, j'adopterai ton fils, Tommy. Et alors, lui, il vit, Léo Haas vit, Bedřich Fryta meurt, et après la guerre, miracle au milieu de ce labyrinthe d'enfer, eh bien, Léo Haas retrouve Tommy, seul, puisque la mère de Tommy est morte du typhus.
À Térézine. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas partis avec le père à Auschwitz.
Non, ils sont restés enfermés dans la cellule de la petite forteresse, qu'on appelle là-bas la petite forteresse à Térézine. Et Tommy est seul au monde, pour ainsi dire. Enfin, il appartient à un petit groupe d'orphelins comme ça. Mais curieux hasard. Eh bien, c'était la femme de Léo Haas qui avait récupéré dans la cellule le petit Tommy, avant même sans doute que cette promesse ait été faite, n'est-ce pas ? Léo Haas retrouve sa femme avec Tommy à Prague, juste quelques jours après la guerre. C'est extraordinaire. Et c'est là, une fois arrivé à Prague, qu'il monte jusqu'à Térézine, qui avait été libérée par l'armée rouge. On est à 60 km au nord de Prague, et qu'il déterre les fameux dessins, ses propres dessins, lui, qu'il avait emmuré, lui, et les dessins. Et la malle, cette fameuse malle qui contenait 300, 400 dessins clandestins. Des grands formats, bien sûr, des esquisses, mais 300, 400 œuvre monumentalement importante, bon sang de bonsoir. Et au fond, un petit livre recouvert avec une couverture réalisée à partir de petits sacs de pommes de terre. Et c'est le fameux livre pour Tommy, c'est celui qu'on vient de publier. C'est un trésor dans le trésor. C'est un miracle au milieu de l'enfer. Et c'était impossible de le laisser en l'état, enfin dans cet état d'oubli ici en France en tout cas. Und der Regen rinnt. Warum?
Et la pluie tombe, et la pluie tombe. Dans le noir, je pense à toi, mon enfant. Hautes sont les montagnes, profondes et la mer. Mon cœur est fatigué et lourd de nostalgie. Et la pluie tombe, et la pluie tombe. Pourquoi es-tu si loin, mon enfant? Et la pluie tombe, et la pluie tombe. C'est Dieu qui nous a séparés, mon enfant. Tu ne dois pas voir toutes ces souffrances, cette misère. Il ne faut pas que tu traînes dans ces ruelles de pierre. Et la pluie tombe, et la pluie tombe. Ne m'as-tu pas oublié, fils? Cette chanson, Elios Azoulay, musique et paroles de Ilse Weber, une chanson intitulée « Und der Regen rinnt » et la pluie ruisselle, si on peut dire, chantée ici par Marielle Rubens, accompagnée par vous-même au piano. Qui était Ilse Weber et pourquoi cette chanson, Elios Azoulay?
Ilse Weber était infirmière en chef au quartier des enfants du camp de Térézine. Et d'elle, il ne nous reste que 8 petites mélodies. 8 petites mélodies qui devaient être le seul remède qu'elle pouvait offrir dans cet hôpital pour enfants dont elle avait la responsabilité. Parce que, bien évidemment, hôpital peut-être, mais soins impossibles, n'est-ce pas? Et ces petites mélodies me semblent comme des baumes sublimes. Et Ilse Weber est morte, assassinée elle aussi à Auschwitz en 1944. Mais je trouve que la délicatesse de ces presque rien de musique qui nous viennent d'une femme qui n'était pas musicienne professionnelle sont tellement chargées, ont tellement de densité que je trouve que c'est presque une berceuse qu'elle aurait pu composer pour Tommy, sans doute.
Et les paroles de cette musique vous inspirent?
Le dernier vers, « Ne m'as-tu pas oublié, fils ? Ne m'as-tu pas oublié ?» C'est d'autant plus troublant, cette histoire, cette mélodie et le destin d'Ilse Weber, qu'elle est arrivée dans le camp avec un fils qui s'appelait Tommy.
Lui aussi.
Lui aussi. Et qu'elle avait sauvé un de ses enfants en l'envoyant en Scandinavie, le plus petit, qui s'appelait Anouche. Et Anouche a survécu, bien sûr, puisqu'il n'a pas été déporté. Tommy, sa mère et son père, qu'Ils Weber, sont mariés, et Tommy sont morts gazés à Auschwitz. Et Anouche a survécu, et il est devenu le meilleur ami de Tommy après la guerre. David Haas, le fils de Tommy, m'a dit que c'est le premier appel qu'ils ont fait quand Tommy est mort, c'était à Anouche Weber. C'est le premier homme qu'ils ont appelé. C'est dingue de voir un homme qui s'accroche au prénom de son frère pour en trouver un autre, n'est-ce pas, après la guerre?
En juin 1944, les Allemands autorisèrent la venue de la Croix-Rouge internationale à Térézine. Et pour l'occasion, le ghetto fut, entre guillemets, embelli, les détenus rhabillés, les façades repeintes et même de faux commerces inaugurés. Un opéra fut donné de telle sorte que l'envoyé de la Croix-Rouge, le docteur Maurice Rossel, un Suisse, écrivit un rapport élogieux sur les conditions de vie dans le camp. Après cette visite, les déportations reprirent jusqu'en octobre 1944. Quel regard eut ce vivant qui passe, comme l'appela Claude Lanzmann dans un film qu'il lui consacra 35 ans plus tard, fut-il capable, cet homme, de voir au-delà de la dissimulation, du maquillage et des exercices de détournement du regard mis en scène par les nazis, Elios Azoulay?
Pour voir, il faut ouvrir les yeux. Et docteur Rossel n'a pas ouvert les yeux. Je veux dire que même les aveugles voient. Les aveugles voient. Mais ceux qui ferment les yeux ne voient pas. Rossel a fermé les yeux. Bien évidemment, ça devait être très très bien joué. Bien évidemment, on ne lui a pas fait signe. Il faut voir le film de Lanzmann. Ah oui, on ne lui a pas fait de grand signe. On n'a pas agité les bras pour lui dire « ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai ». Bien évidemment que les juifs n'ont pas fait ça. Pourquoi? Comment aurait-il pu le faire? Non, je crois que Rossel était un homme qui marchait en fermant les yeux et qu'il s'est gentiment laissé avoir. De ce point de vue-là, c'est, je trouve en tout cas, imprescriptiblement impardonnable.
Alors quand on regarde les dessins de ces 52 petites aquarelles, on s'aperçoit justement que le thème du regard est important. Bedřich Fryta y fait allusion en permanence, en y dessinant souvent des lunettes, par exemple, Elios Azoulay. Et j'aimerais que vous nous caractérisiez le trait de Bedřich Fryta dans ce petit livre pour Tommy.
Contrairement donc au dessin clandestin que nous avons évoqué tout à l'heure, là il s'agit d'une œuvre très très nerveuse, n'est-ce pas ? Ce qui est sublime dans ce petit album pour Tommy, c'est que il n'hésite pas, que tout a l'air lumineux, enfin aussi précis qu'un fruit qui tombe de l'arbre. Tout est clair. Je veux dire que le dessin est rond, l'aquarelle est posée là comme un magnifique... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est tellement évident. Et c'est tellement, bien sûr, gorgé d'amour, mais simple. Vous voyez, tellement là-dedans de tendresse. Pour avoir eu donc l'exemplaire entre les mains, le vrai, celui qui maintenant est au Musée juif de Berlin depuis la sortie de ce livre, pour avoir eu le dessin entre les mains, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'esquisse. Je crois qu'un grand maître du zen apprécierait la perfection des ronds, parce que c'est exactement ça, c'est de la pureté.
On parle de regard.
Oui.
Le premier dessin, d'ailleurs, représente le petit Tommy debout sur une grande malle de voyage qui regarde par la fenêtre par laquelle on aperçoit le toit d'une maison, un arbre sans feuilles et un oiseau dans le ciel, une image qui fait écho, me semble-t-il, à l'un des textes les plus célèbres de Kafka, intitulé « Regard distrait par la fenêtre », paru en 1912 et que Bedřich avait peut-être lu. J'aimerais, Elios Azoulay, que vous nous lisiez ce passage de Kafka et que nous le commentions ensuite.
« Regard distrait par la fenêtre. Que ferons-nous durant ces journées de printemps qui maintenant arrivent, rapides ? Tôt ce matin, le ciel était gris, mais si maintenant l'on s'approche de la fenêtre, on est surpris et l'on appuie sa joue contre la poignée de la fenêtre. En bas, on voit la lumière du soleil déjà déclinant sur le visage de la petite fille qui se promène et regarde autour d'elle. Et dans l'instant, on voit se superposer l'ombre de l'homme qui arrive derrière elle, plus rapide. Puis l'homme est déjà passé, et le visage de l'enfant est tout éclairé.
Alors c'est ce visage éclairé de l'enfant que dessine Bedřich Fryta au fil des pages. Elios Azoulay, je pense en particulier à cette page 71, où le petit Tommy, assis sur son pot, a une tête de soleil, accompagné de la légende Slunichko, dès la AA, le soleil fait AA. Mais vous pouvez commenter, et j'aimerais d'ailleurs que vous commentiez le texte de Kafka que vous venez de lire.
Cher Marc Alain, déjà je vous remercie parce que je ne connaissais pas ce texte. En tout cas, je ne l'avais pas en mémoire. Mais par contre, j'ai toujours eu le sentiment, qui ne pourra jamais se vérifier ailleurs que dans mon impression, que Bedřich Fryta aurait été sans doute le plus grand illustrateur de Kafka. Vraiment, quand on voit la fureur géniale et l'intensité poétique de ses dessins, je suis certain qu'il aurait fait des illustrations du procès, mais sublime, sublime. Bon.
Même si Kafka avait dit qu'il ne voulait pas d'illustration, en tout cas pour la métamorphose,
oui.
Il ne voulait pas qu'on représente l'animal en question.
Oui, oui,
mais
tout
je
à
comprends
fait.
Ce que vous voulez dire.
Pour le procès, en tout cas, je ne disais pas pour la métamorphose, vous avez raison. Que dire sur cette tête de soleil ? Il y a tellement là de beauté, tellement de naïveté, que c'est difficile finalement de commenter un dessin fait pour un enfant autrement qu'en méditant.
Ce soleil qui fait AA n'est pas fortuit, me semble-t-il, car on a l'impression que ce que Bedřich offre à son fils Tommy, c'est une sorte d'abécédaire, un viatique pour la vie, pour apprendre à la fois à lire et à découvrir le monde et la vie. Et cet abécédaire est intéressant d'un point de vue de la langue hébraïque, car le mot « alphabet » en hébreu, Aleph Bet, écrit le mot « Av », c'est-à-dire le père, Elios Azoulay.
Oui, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est vraiment un livre pour enfants. C'est vraiment un livre pour un enfant de 3 ans. Si ce n'est le premier dessin qui porte un tout petit peu de mélancolie, celui dont vous parliez tout à l'heure, qui est d'ailleurs le seul où on voit, un des rares où on voit le petit Tommy de dos. Sinon, oui, c'est toujours son visage, c'est toujours lui. Et c'est un papa qui lui dit, ben voilà, ça c'est une tasse, attention, la soupe c'est chaud, le café ça brûle. C'est pour aujourd'hui, n'importe quel grand-père, n'importe quelle maman, n'importe quel papa, n'importe quelle grand-mère pourrait prendre ce livre et l'offrir à son fils ou à sa fille, sans craindre qu'il y voit quelque chose. Je veux dire qu'il y avait tellement rien à bouffer là-bas que, par contre, Bedřich Fryta a offert un grand bol de rêve à son fils. C'est ce qui fait que ce livre est un enchantement réel. C'est tout simple, c'est l'alphabet de la vie. Et en plus, non seulement c'est l'alphabet au sens où on apprend tel truc, tel mot, etc., la voiture, etc., etc., mais en plus avec une volonté aussi chez le père de lui donner une petite leçon de morale pour le futur. On lui dit, ah ben j'espère que peut-être tu seras un grand boxeur, peut-être tu seras un grand peintre, peut-être tu seras, etc. Mais surtout, tu seras pas un grand général. Tu seras pas général, hein. Et puis tu seras pas un homme d'affaires non plus. Voilà. Et d'ailleurs, avec une certaine préscience, il a deviné, ou alors est-ce que c'est le fils qui s'est inscrit dans la bénédiction de son père? Il a deviné que son fils Tommy ne serait pas un grand homme d'affaires. Tommy a passé son temps à dilapider toute sa vie le peu de pognon qu'il avait réussi à gratter à droite, à gauche, parce qu'il a vécu ensuite dans le communisme, qui n'était pas une situation simple d'un point de vue. Et donc oui, ça n'a jamais été un homme d'affaires. Il y a même quelque chose d'assez amusant que me rappelait son fils David, c'est qu'il y a deux dessins qui sont vraiment, alors là pour le coup, sur les pages pleines de couleurs. Et ce sont des scènes de marché où vous voyez Tommy sur un marché avec des fruits. Et c'est très très beau parce que Tommy adulte, quand il va voyager, eh bien son premier réflexe, ce sera d'aller visiter le marché de la ville. Voilà.
Cet alphabet, cet alphabet, cet abécédaire est d'autant plus remarquable, Elios Azoulay, qu'il se compose de 52 petites aquarelles. Or, 52 s'écrit en hébreu des lettres Nun Bet ou Bet Nun, c'est-à-dire exactement le mot Ben qui signifie le fils. Pensez-vous que Bedřich Fryta était assez formé à la langue hébraïque pour être conscient de tous ces jeux de mots?
Rien ne l'atteste. Le caractère de Tommy, c'était un... Tommy, lui, était un juif... parfois oui, parfois non. Parfois plus, parfois moins, si vous voulez. Et donc, je ne sais pas s'ils ont été véritablement plongés là-dedans.
Mais il y a pourtant des petits clins d'œil à l'hébreu, en tout cas au judaïsme. Il y a une image très directement juive, si l'on peut dire, et importante dans ce livre, dans le livre de Tommy, c'est celle du petit Tommy en train de prier. En tchèque, la phrase qui accompagne ce dessin, c'est « Tommy modli », c'est-à-dire « Tommy prie », ce qui dit beaucoup de ce que ce père désire pour son fils. Comment concevez-vous la prière vous-même? Ici, c'est une question très personnelle, Elios Azoulay.
D'abord un silence, parce que on entend que si on est capable de créer le silence. D'ailleurs, c'est peut-être ça le seul moyen de prier, c'est déjà de se taire. Mmh. On pourrait tous commencer par se taire. Et en ce sens-là, la musique est formidable, parce que la musique, c'est ça. Si tu veux entendre, tais-toi. Et tu n'auras rien à dire d'autre qu'écouter. Et c'est là que l'électricité miraculeuse du message passe, me semble-t-il.
Je vous fais une autre proposition, car en hébreu, prier signifie se juger. Le hitpalel, ce n'est pas une demande quand on prie, mais une façon de se regarder dans la glace avec honnêteté, avec lucidité, pour se demander si l'image que nous construisons de nous-mêmes et que nous désirons donner à voir de nous-mêmes est honnête, sans décor et sans faux-semblant. Au plus loin du paraître, diraient les philosophes, Bedřich, me semble-t-il, y était sensible et nous le fait sentir dans son dessin, page 31, où le petit Tommy est devant un grand miroir. Elios Azoulay, pour avoir beaucoup fréquenté ce petit livre de Tommy et Tommy lui-même, et avoir fréquenté aussi son fils David et ses petits-enfants, diriez-vous qu'à sa façon, même si vous avez défini la prière comme un silence, diriez-vous que ce petit livre est un livre de prière?
Eh bien, vous serez le premier à me poser cette question. Et ma première réponse, c'est oui. Oui, déjà parce que c'est un livre qui peut se feuilleter dans tous les sens possibles, je crois. Bien sûr, il y a une direction, mais on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et ce qu'il a à nous dire résonne très très simplement, aussi désaltérant qu'un verre d'eau. chaque dessin porte en lui quelque chose de très très chaleureux. Est-ce que c'est pas de l'amour, ça? Est-ce que c'est pas simplement de l'amour? C'est juste un père qui aime son fils. Et moi, ce que je trouve tellement bouleversant au moment où j'en parle, c'est bon sang. C'est... Vous vous rendez compte où ils étaient? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Il a pris sur ce temps-là, alors que pendant ce temps-là, il aurait pu essayer de chercher, je sais pas, à bouffer, j'en sais rien, à essayer de s'en sortir un tout petit peu mieux. Non, il a pris ce temps-là pour dessiner, pour son fils. Et sa femme l'a laissé faire, elle lui a pas dit « Non, tu te rends pas compte !» Non, voilà, je veux dire, c'est de l'amour. Et cet homme-là, il... Bon sang, il le met au fond d'une malle, enterré sous terre, il meurt à Auschwitz, sans savoir si quelqu'un un jour pourra... Non mais je veux dire, c'est un miracle, bon sang, je sais pas quel mot employer, c'est un miracle. Moi, quand je l'ai eu entre les mains, ayant la chance de pouvoir le feuilleter, c'est un miracle, avec ce recouvert de petits trucs de couverture de pommes de terre, de sac, à partir de sacs de pommes de terre qui vous râpent un peu la main. Vous avez la couverture, vous râpe les doigts et chaque page vous caresse.
Merci Elios Azoulay pour cette très belle découverte et ce beau partage. Je vous propose de poursuivre cette passionnante conversation la semaine prochaine autour de ce livre événement dont je rappelle le titre Pour Tommy, 22 janvier 1944, sous-titré « Quand un père dessinait pour son fils dans le camp de Térézine », dessin de Bedřich Frita, préface de Tommy lui-même et un très beau texte que vous avez écrit, Elios Azoulay, intitulé « Dans le creux des mets ». Merci encore, Elios Azoulay.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Guéride Dauphard, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Leïtraot, Koltouv, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.